Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes. 19h10, carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. 19h20, le club des idées. Alors ce soir, on va s'intéresser à la masculinité. Qu'est-ce qu'être un homme en 2022? Vit-on toujours dans une société du patriarcat, comme le disent certaines féministes? On en parlera notamment avec l'historien et écrivain Yvan Jablanka, qui publie un livre sur la question. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Les scénarios encourageants de l'Institut Pasteur sur l'évolution de l'épidémie cet été.
Oui, si tout va bien, on devrait pouvoir partir en vacances sans trop de pression, mais toujours avec vigilance, bien sûr.
Le procès d'un pédophile français jugé pour 24 agressions sexuelles commises sur des enfants au Népal et au Cambodge. Il sévissait sous couvert d'actions humanitaires.
La victoire des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles après 22 mois de lutte et 8 mois de grève.
Au Mali, les militaires arrêtent le président et le premier ministre de transition. C'est le deuxième coup d'État en moins d'un an. Faut-il s'en inquiéter? On posera la question à Didier François.
Et puis Benzema Deschamps, retrouvaille au sommet chez les Bleus.
Tout est redevenu comme avant, assure l'attaquant, rappelé en équipe de France pour l'Euro.
La météo avec Anissa Haddadi, encore 24 heures de patience pour que tout le monde retrouve le sourire et donc le soleil.
Enfin, oui, c'est en effet jeudi, Julien, que le soleil va se montrer presque partout. En attendant, demain, c'est automnal au nord, printanier dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un horizon qui se dégage. Enfin, le nombre de contaminations au Covid continue de baisser.
Et les spécialistes estiment que les différents signaux peuvent laisser espérer un été apaisé, Victor Delande.
Oui, la décrue de l'épidémie va même au-delà des espérances des modélisateurs de l'Institut Pasteur. En un peu plus d'un mois, le nombre d'hospitalisations quotidiennes est passé de près de 2000 à 700. Au-delà des bénéfices évidents du confinement, le coronavirus subit très probablement une saisonnalité, me confie un épidémiologiste. Et en ce moment, ça nous est très favorable. Si on continue à ce rythme, on pourrait même avoir moins de 5000 nouveaux cas par jour d'ici le 10 juin, un niveau qui permettrait de mieux remonter et donc de mieux contenir les chaînes de contamination. Enfin, autre signal très encourageant, la campagne de vaccination progresse très fortement. On est passé de 350 000 à 500 000 doses administrées chaque jour en moyenne en moins d'un mois. Au 1er juillet, plus d'une personne sur deux aura reçu au moins une injection. Et avec l'arrivée du pass sanitaire, les Français l'ont parfaitement compris. S'ils veulent passer un été tranquille, sans Covid ou presque, ça passe d'abord par la vaccination.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Et voilà une autre info qui donne de l'espoir. Le laboratoire américain Moderna affirme que son vaccin est hautement efficace chez les 12-17 ans. Il a d'ailleurs déjà déposé une demande d'autorisation pour début juin.
Emmanuel Macron met la pression sur la Biélorussie et la Russie après l'enlèvement du jeune opposant lors du détournement d'un vol commercial.
Le président français demande la libération immédiate du jeune journaliste et de sa compagne. L'Union européenne, dit-il, a besoin de regarder, de recadrer très profondément sa relation avec la Russie. Et il se dit favorable à la participation de l'opposition biélorusse au sommet du G7 qui doit se tenir le mois prochain en Cornouailles. Emmanuel Macron qui reconnaît toutefois que l'Europe n'a pas l'arsenal suffisant lui permettant de mettre en œuvre des sanctions encore plus lourdes contre la Biélorussie.
Un Français de 51 ans jugé aujourd'hui pour une vingtaine d'agressions sexuelles commises sur des enfants au Népal et au Cambodge.
Déjà condamné pour des faits similaires en 2005, Marion Dubreuil, on le soupçonne de s'en être pris à ses enfants, à ses mineurs, dans le cadre de l'association qu'il avait créée.
Oui, et devant le tribunal, Philippe Gérard affiche encore le look décontracté du baroudeur, cheveux longs, blonds, ramassés en chignon, la barbe fournie, une chemise à carreaux et un jean un peu avachi sur la barre. Ce Français de 51 ans n'affiche aucune émotion quand la présidente énumère les prénoms des 15 Népalais qu'il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement entre 2011 et 2014. Peut-être y en a-t-il d'autres. La magistrate montre les photos des petits garçons âgés entre 6 et 14 ans à ses assesseurs. À l'époque, le prévenu dirigeait une association pour scolariser les enfants des rues. Il vivait à l'hôtel avec eux. C'était leur oncle, un référent, une figure d'autorité. Votre désir, soi-disant sincère, d'aider les enfants. On se demande s'il n'est pas plutôt destiné à assouvir votre désir de relation sexuelle avec les enfants, l'interroge la juge. Le prévenu n'en démord pas. Quand j'ai quitté le Népal, on avait scolarisé 80 enfants, mais il est obligé d'admettre les attouchements sur certains petits garçons, pas tous. La première fois, c'était sous la douche. Ça n'a duré que 10 secondes, se justifie Philippe Gérard. La magistrate lui reproche de noyer le poisson, d'autant que lorsque le Français quitte le Népal en catastrophe fin 2014, alors qu'il fait l'objet de plusieurs signalements, c'est pour recommencer immédiatement dans un orphelinat au Cambodge. 9 petites victimes identifiées en 2 mois. Philippe Gérard encourt aujourd'hui 20 ans de prison.
Marion Dubreuil du service police Suisse Justice d'Europe 1. L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire d'Éric Dupond-Moretti.
Projet qui comprend toute une palette de mesures comme les procès filmés, des droits renforcés dès l'enquête préliminaire ou encore le secret des avocats élargi. Texte adopté sans les voix de la gauche ni de la droite. La fin d'un long combat pour les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris. On vous en avait parlé plusieurs reprises.
Oui, ça fait près de 2 ans qu'elles se battaient pour de meilleures conditions de travail.
Elles ont fait 8 mois de grève, ça en dit long sur leur motivation. Et ce matin, enfin, elles ont signé un accord avec le groupe. Reportage de Laura Taouchanoff.
Un cri de victoire. La plus longue lutte syndicale dans l'hôtellerie paye enfin. Immense soulagement pour Sylvie, l'une des 17 femmes de chambre.
Pour nous, le temps n'était plus important. On y croyait toujours. Parce qu'auparavant, on savait que ce n'était pas un petit groupe. Si nous-mêmes, on ne les dénonce pas, qui allait les dénoncer en notre place? Vous savez, quand vous travaillez dans des conditions pas trop bien, ça représente vraiment beaucoup. Parce que vous savez faire des cadences infernales. Et gagner 800 euros, 900 euros, ce n'est pas évident. Mais là, avec ce protocole, d'accord, on a gagné notre dignité, on peut dire.
Cet accord mérite bien une danse de la joie devant les portes de l'hôtel. 250 à 500 euros en plus par mois. Un panier repas, une pointeuse pour les heures supplémentaires et surtout une cadence de travail réduite. C'est donc plus sereine que Rachel revient travailler.
Maintenant, on aura à peu près 30 minutes pour manger, respirer un peu et puis reprendre le travail. Parce que le métier de la femme de chambre, si ce n'est pas un métier facile, franchement, ça se mérite.
Ces employés n'en oublient pas pour autant leur dernier combat. Peut-être le plus symbolique, l'espoir un jour de ne plus être sous-traité et enfin d'intégrer l'Ibis Batignolles.
Le reportage de Laura Taouchanoff.
Europe 1, Julien Bugier.
On marque une pause dans quelques secondes. Que se passe-t-il au Mali? On va en parler. Deuxième coup d'État en moins d'un an.
Et puis Deschamps, Benzema, on efface tout et on recommence.
A tout de suite. La suite du journal et on parle donc de ce nouveau coup de force de l'armée au Mali. Le président et le premier ministre de transition démis de leurs fonctions.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Deuxième putsch au Mali en moins d'un an. Que se passe-t-il dans ce pays?
C'est malheureusement une nouvelle démonstration de l'irresponsabilité totale des dirigeants militaires maliens qui s'accrochent à leur pouvoir et à leurs avantages au lieu de combattre les terroristes ou au moins tenter de reconstruire une armée digne de ce nom. C'est un peu désespérant. Mais cette instabilité politique endémique est en grande partie la raison pour laquelle le conflit s'éternise au Mali depuis 2012, donc bientôt 10 ans. Et rappelez-vous que déjà à l'époque, alors que les colonnes de djihadistes descendaient drapeau au vent sur Bamako, les soldats maliens, eux, se repliaient en panique sur la capitale et y renversaient leur gouvernement, laissant aux troupes françaises le soin d'arrêter les terroristes. Un second coup d'État a ensuite été organisé, c'était au mois d'août dernier, par un quarteron de colonel, dont le chef des forces spéciales Assimi Goïta, qui est aujourd'hui vice-président et dans les faits l'homme fort du Mali, mais qui sous la pression de la communauté internationale avait dû accepter de mettre sur pied un gouvernement d'apparence civile, avec pour président un général à la retraite et un diplomate pour premier ministre. Eh bien, ce sont ces deux hommes que le colonel Goïta a fait arrêter hier soir sans ménagement à leur domicile, leur crime étant d'avoir procédé à un remaniement ministériel qui visiblement a déplu au chef des putschistes. Il faut savoir que les postes de ministre de la Défense et de la Sécurité étaient jusqu'à présent occupés par deux de ses proches. Eh bien, ils ont été écartés de ce nouveau comité et même s'ils ont été remplacés par les officiers, ça n'a pas suffi.
Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'opération Barkhane?
Alors, pas sur le plan militaire, mais oui, c'est catastrophique au niveau politique parce que le président Macron, qui vient d'ailleurs de qualifier ce coup d'État dans le coup d'État, montre bien que ça pose un véritable problème de légitimité de ces autorités maliennes auprès desquelles nous sommes engagés. La France combat le terrorisme au Mali, ça c'est bien, mais elle ne peut pas donner l'impression de soutenir, voire de protéger un gouvernement illégal, voire illégitime. Les troupes françaises ne peuvent pas se laisser éternellement instrumentaliser de la sorte, d'autant que le chaos provoqué par les militaires maliens aggrave la crise sécuritaire en nourrissant le terreau sur lequel prospèrent toutes les révoltes et toutes les insurrections. Donc Paris envisage de prendre des sanctions contre les putschistes en accord avec les pays voisins du Mali en Afrique de l'Ouest.
Merci Didier. L'œil de Didier François tous les soirs dans le journal de 19h.
Inquiétude en République démocratique du Congo. Deux longues fissures sont apparues aujourd'hui dans la ville de Goma au pied du volcan Nyiragongo, région secouée par de violents séismes. Ces deux fissures ont fracturé le sol en pleine ville, alimentant la psychose d'une nouvelle éruption du volcan.
Les États-Unis commémorent aujourd'hui le premier anniversaire de la mort de George Floyd.
Joe Biden doit recevoir sa famille à la Maison Blanche. Le 25 mai 2020, George Floyd avait agonisé pendant 10 longues minute sous le genou du policier Derek Chauvin. Et puis après 2058 jours d'absence et un mondial gagné sans lui en 2018, Karim Benzema s'apprête à retrouver demain les Bleus à Clairefontaine pour préparer l'Euro qui démarre le 11 juin.
L'attaquant du Real Madrid qui se confie dans L'Équipe aujourd'hui.
Notamment à propos de ses retrouvailles avec Didier Deschamps, une communication très maîtrisée, Cyril de la Morinerie.
Oui, ceux qui espéraient des révélations vont être déçus. Le joueur avait soigneusement préparé cette sortie. On le voit à la une du journal L'Équipe arborer un large sourire comme rarement. Et si le revenant confirme avoir rencontré physiquement le sélectionneur, on n'en saura guère plus. Avec Deschamps, on s'est vu. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Et au bout de 3 minutes, tout était redevenu comme avant. Fin de citation. Comme si 180 secondes seulement suffisaient pour rabibocher deux hommes qui ne se sont plus parlé depuis 5 ans et 7 mois. On a discuté longuement, c'est une bonne explication, balaye dans le quotidien sportif Karim Benzema. Quant à ses propos polémiques, qui lui avaient sans doute valu d'être banni des Bleus lorsqu'il avait accusé Didier Deschamps d'avoir cédé sous la pression d'une partie raciste de la France, eh bien aucune question à ce sujet n'a été posée. En revanche, l'attaquant de 33 ans évoque les retrouvailles avec son rival Olivier Giroud. « J'ai déjà joué avec lui, ça sera pareil qu'avant », conclut Karim Benzema.
Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie.
Merci Isabelle. À demain, 18h. La météo, Anissa Dadi, avec une journée de transition, en somme, demain.
Oui, le beau temps arrive, en effet, demain par le sud, ce qui veut dire que dans pas très longtemps, il va envahir toute la France, mais il va falloir encore être un petit peu patient. Donc, pour toutes les régions situées au sud de la Loire, demain, le soleil s'impose, le temps est sec, les températures en légère hausse. On aura 26 degrés à Nîmes, demain 25 à Salon de Provence, 23 degrés à Gap et Marseille, 22 à Lyon et Chambéry, 21 degrés à Toulouse et Bordeaux et 20 degrés à Clermont-Ferrand. Alors au nord de la Loire, là nous avons toujours beaucoup d'instabilité. Nous sommes sous l'effet de cette dépression qui touche le Danemark actuellement. Donc nous avons des averses fréquentes demain matin sur toutes les régions situées sur la moitié nord. Dans l'après-midi, sur les Hauts-de-France, la Normandie et la région parisienne, ça se dégage et on aura un peu de soleil. En tout cas, le temps redevient sec sur ces régions. Donc doucement, mais sûrement, on va vers le beau temps. Les températures sont toujours fraîches sur la moitié nord avec 13 degrés à Belfort, 15 à Brest et Strasbourg, 16 degrés à Lille et Orléans et 17 pour Paris.
Merci Anissa, on vous retrouve demain pour vos points météo à partir de 18h dans Europe Soir. Vous restez avec nous 19h13 dans quelques secondes, le débat du Club des Idées. On parlera de la masculinité ce soir. Qu'est-ce qu'être un homme en 2022? Vaste question. D'abord la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec un coup de cœur ce soir, Nicolas Bouzou, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Un coup de cœur et des gros sous. Puisqu'on a appris que Bernard Arnault avait été l'homme le plus riche du monde pendant quelques instants avant de passer à la seconde place. Et ça vous rend heureux?
Alors heureux, le mot est peut-être trop important, mais enfin ça m'a rendu fier en tout cas d'une certaine façon. Alors attention quand même Julien, parce que quand on parle de ces sommes astronomiques, de ces patrimoines astronomiques, en l'occurrence pour Bernard Arnault ou pour Elon Musk, 180-190 milliards d'euros, on parle de la valeur boursière.
Oui. C'est pour ça qu'il est devenu le premier milliardaire au monde.
Voilà.
Parce que son groupe a été valorisé plus que celui de Jeff Bezos.
Exactement.
Qui est le patron d'Amazon.
Le groupe LVMH, en l'occurrence, que dirige Bernard Arnault, qui est quand même une extraordinaire réussite française. Hein. LVMH, c'est un groupe qui incarne la France. Ce sont des marques qui nous rendent fiers, hein, quand on va à l'étranger, qu'on voit une boutique Dior, qu'on voit une boutique Louis Vuitton. Évidemment, ça traduit une sorte d'excellence française. Mais si je ne reprends pas simplement le cas de Bernard Arnault, mais si je regarde la liste des principaux milliardaires dans le monde, eh bien, au risque de vous affliger d'une chronique très impopulaire, je trouve que ce sont tous des gens absolument formidables. Elon Musk révolutionne le spatial, révolutionne l'automobile, il nous fait rêver. Bill Gates finance des traitements des vaccins dans les pays les plus pauvres du monde. Jeff Bezos, vous l'avez cité, qui a créé Amazon, eh bien quand même rend un fier service à des centaines de millions, voire à des milliards de gens, en les livrant jusque chez eux.
Et puis le cloud surtout, on
bien
oublie
sûr,
de le dire.
C'est grâce à ça qu'il gagne de l'argent d'ailleurs.
La vraie richesse de Jeff Bezos, c'est le cloud.
Vous avez tout à fait raison, Julien. Les milliardaires français, on a parlé de Bernard Arnault, mais François Pinault, autre grand groupe de luxe, hein, avec des marques comme Gucci, comme Yves Saint-Laurent. Alors Pinault, en plus, c'est un autodidacte, ce qui le rend encore plus méritant d'une certaine façon. D'ailleurs, je suis allé visiter ce matin la Bourse de Commerce à Paris, qui présente l'une des collections Pinault, et c'est un endroit absolument extraordinaire. Stéphane Bancel, qui est devenu un milliardaire, hein, donc le président de Moderna, et bien Moderna aussi, qui fabrique et qui vend les vaccins à ARN messager, nous a rendu un service extraordinaire. Non, le seul scandale, je trouve, dans ces listes, le vrai scandale, c'est qu'il n'y a pas de femme milliardaire. Et ça, bien évidemment, il faudra que ça change.
Bon, vive les milliardaires, dites-vous. Mais il y a quand même le problème des inégalités qui peuvent choquer.
Vous avez tout à fait raison, et on peut parfaitement comprendre, et je comprends que ces inégalités choquent, mais le vrai scandale, voyez-vous, ce ne sont pas véritablement les inégalités, ce sont les injustices. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des gens riches et des gens pauvres, c'est le fait que les gens pauvres aient des difficultés, voire soient dans l'impossibilité de devenir riches. Ça, c'est une vraie injustice, et de ce point de vue-là, le problème de la France, ça n'est pas un problème d'inégalité. Les inégalités sont relativement contenues dans notre pays. En revanche, c'est un pays qui est injuste. On sait que quand on est pauvre, il est très difficile de devenir riche.
Six générations pour changer de statut social.
Exactement, c'est documenté par les travaux de l'OCDE, en effet. Mais je dirais que ça n'est pas la faute des milliardaires, c'est beaucoup plus la faute de notre système d'éducation. À chaque classement PISA, vous savez, ce classement international qui classe les systèmes scolaires, on voit qu'on perd des places, on voit qu'on a un système éducatif extrêmement inégalitaire. Et donc, si on s'intéresse vraiment à la pauvreté, on doit réfléchir à la façon de rendre, ça n'est pas le seul sujet, mais on doit réfléchir à la façon de rendre notre système éducatif plus performant et plus égalitaire. Et d'ailleurs, je pense que si la France n'avait plus ses milliardaires, elle ne serait en aucun cas un pays plus juste. En revanche, elle serait toujours aussi inefficace, notamment dans ce domaine qui doit tous nous préoccuper, qui est celui de l'éducation.
Bien, vive les milliardaires, mais vive l'éducation qu'il
Absolument.
Faut renforcer, dites-vous. Merci pour ce coup de cœur et cette carte blanche, Nicolas Bouzou.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, restez avec nous. Le grand débat du Club des Idées. Dans quelques secondes, on parlera qu'est-ce qu'être un homme en 2022. C'est la question qui va nous intéresser jusqu'à 20h. Vaste question, les réponses sont intéressantes. Vous allez voir, on en parle notamment avec l'historien Yvan Jablonka. À tout de suite. Et ce soir, dans le Club des Idées, on va donc s'intéresser au rapport entre hommes et femmes. En a-t-on vraiment fini avec la société du patriarcat, dans l'éducation des enfants, dans la place des pères, dans la famille aussi, et puis aussi avec ces terribles féminicides qui se multiplient? Encore hier, ce drame à Hayange, en Moselle, d'une femme tuée par son compagnon. Alors comment se construit aujourd'hui la masculinité? Faut-il changer de modèle? La révolution est-elle déjà en marche? Est-ce souhaitable? On en parle ce soir avec nos invités. Yvan Jablonka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, auteur de « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités » publié aux éditions du Seuil. On en parle également avec Christine Castelin-Meunier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue au CNRS et vous publiez « Les hommes aussi viennent de Vénus » aux éditions Larousse. Et on en parle avec Rebecca Amsalem, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneuse, féministe, on peut dire ça?
On peut.
Fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, newsletter qui est également féministe par conséquent. D'abord, Yvan Jablonka, comment réagissez-vous à ces nouvelles affaires de féminicide? Vous avez beaucoup travaillé sur la question. Et que raconte-t-elle de notre société?
Ce sont des crimes odieux qui associent violence, misogynie, volonté de destruction des femmes, donc c'est quelque chose qui est effrayant. Est-ce qu'il faut dire que ce sont de nouvelles affaires? Hélas, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est une sorte de prise de conscience et le fait que ces crimes paraissent de plus en plus odieux. Cela dit, c'est un problème endémique, et cela dans le monde entier. Le mot féminicide est d'abord apparu en Amérique latine pour des raisons, hélas, qui tiennent à sa prévalence.
Je vous pose la question, Yvan Jablonka, car dans votre ouvrage, vous dites qu'il y a dans nos sociétés une injonction à la force, à la virilité, à la compétition. Est-ce que, d'une certaine manière, au bout du bout, c'est ce qui peut expliquer ce phénomène de domination de l'homme sur la femme qui pousse à des crimes comme ceux de ces féminicides?
Disons qu'une société patriarcale légitime la violence d'un homme sur une femme dès lors que la femme ne reste pas à sa place, entre guillemets. Donc effectivement, il y a une logique à cela. Maintenant, des crimes comme celui-ci renvoient à des logiques qui sont à la fois des logiques individuelles, familiales et sociales. Bien sûr, moi, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans mon livre Laetitia il y a quelques années, c'est que c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. C'est un événement au sens historique qui nous engage à comprendre la logique sous-jacente à ces meurtres.
Christine Castelin-Meunier, est-ce que vous diriez qu'on est toujours aujourd'hui dans une société dominée par le patriarcat?
Je crois qu'on est dans une société qui est un peu, plutôt en transition, ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de turbulences, finalement, parce que Il y a d'une part des hommes qui sont en train de changer, et surtout du côté aussi des jeunes générations, même si il y en a des générations précédentes qui
quand vous
qui
dites changer, c'est changer comment ?
Changer, c'est-à-dire sortir de ce moule qui définissait la virilité et qui renvoyait à la force, ça vient d'être dit, à la domination, à la violence, et qui, en fait, renvoyait à cette idée que très clivé entre le masculin et le féminin. Le masculin était l'inverse du féminin. Et donc, du coup, toutes les caractéristiques, toutes les qualités qui étaient féminines étaient opposées au féminin. Ouais. Et donc, on est en train de sortir de ça. Mais en même temps, c'est délicat. Et pourquoi ? Parce que les hommes ne possèdent pas encore toutes les ressources pour y parvenir. Et on est en train d'aller vers ce chemin-là. Et moi, je suis très positive, très optimiste. Et c'est pour ça que je dis que les hommes, dans mon livre, là, chez Larousse, les hommes aussi viennent de Vénus. Alors, arrêtons de dire qu'ils viennent de Mars.
Pour donner à écouter à nos auditeurs le chemin parcouru, je voudrais vous faire écouter cet extrait. C'est en 58, Louise de Villemorin, écrivaine, qui échange sur Europe 1 à ce micro avec le journaliste Claude Dufresne. Elle raconte comment elle voit la femme 100 ans plus tard, soit en 2058. Il faut s'accrocher. Hein. Écoutez.
Je vous dis, les femmes pour moi ont toujours été un élément très nébuleux. Les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas tout à fait les femmes avec lesquelles moi je m'entends. Moi les femmes, je les aime debout, en noir, derrière un homme qui mange. Voilà comment je les aime les femmes.
Rebecca M. Salem, que de chemin parcouru quand même en 50 ans.
Ah oui, ça fait plaisir à entendre, mais c'est pas du tout ce que je pense. Je pense qu'effectivement,
ce qui fait plaisir, c'est l'évolution.
Voilà,
sans
c'est
doute.
L'évolution. Aujourd'hui, on n'est effectivement pas forcément dans une société qui est pas patriarcale. Je pense qu'on y est encore. Malheureusement, les institutions qui existent aujourd'hui sont l'héritage de ce système patriarcal et font en sorte que ce système perdure. Mais effectivement, on a quand même avancé depuis 50 ans.
L'homme moderne, l'homme idéal. Comment vous le définissez ?
Bah, je pense
dans
que...
une société moderne, égalitaire, j'entends.
Oui, bien sûr, bah, c'est une réflexion qui n'est pas aboutie, évidemment, mais je pense que c'est une question que les hommes doivent se poser aujourd'hui. Effectivement, on est à un basculement de notre histoire où soit on peut se renforcer vers une société qui est encore plus tendue entre les hommes et les femmes, avec d'une part des femmes qui veulent l'égalité et d'autre part des hommes qui veulent conserver leur pouvoir. Ou alors on peut aussi décider qu'on va vers une société égalitaire. Et en fait, je pense que cette question, ce sont les hommes qui doivent se la poser.
Alors, ça tombe bien parce que justement ce soir, on va aborder la question du point de vue des hommes. On marque une première pause, on a posé les enjeux du débat et on en parle avec Yvan Jablonka, et notamment ce que vous racontez sur cette injonction à la virilité dans votre ouvrage. À tout de suite. Et la suite du Club des idées, on s'intéresse donc ce soir au rapport entre hommes et femmes et à la construction aussi de l'homme dans son éducation, la place des pères aussi dans la famille. On en parle donc ce soir avec nos invités. Alors, pour cette nouvelle entrée en matière, je voudrais vous faire partager un autre extrait, mais à rebours de celui qu'on a entendu tout à l'heure. On est en 61. Là, c'est un échange sur Europe 1 entre le journaliste Maurice Cauchois et Madame Foinon, qui est maître de forge.
Vous ne croyez pas qu'un jour, dans la cuisine d'un ménage, on y trouvera l'homme et dehors, on y trouvera la femme en train de travailler à la place de l'homme.
Et quel mal voyez-vous à cela ? Si le monsieur aime mieux faire la cuisine et la femme être maçon ? Enfin, ça n'est pas vos affaires, ça n'est pas l'affaire du public, ça n'est pas l'affaire de l'État, ça n'est l'affaire de personne. C'est une règle à obtenir entre deux êtres qui s'entendent bien. Il y en a un qui préfère faire la cuisine, et bien qu'il fasse la cuisine. L'autre préfère être dans son affaire. Laissez-la dans son affaire.
Voilà, Yvan Jablonka, on est vraiment dans le cœur, d'une certaine manière, de votre dernier ouvrage, qui s'appelle « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités », car vous y racontez, à travers votre histoire personnelle, votre construction, cette injonction, d'une certaine manière, à la virilité, cette construction qui est passée par une somme d'éléments qui vous a construit dans les années 70, l'école, la culture de masse, à travers la télévision, à travers les jeux vidéo, la drague, les chansons. À l'époque, c'était Renault, Goldman, très marqué, très genré, comme on dit aujourd'hui, le service militaire. Vous dites en somme, je n'ai pas choisi, on m'a construit dans cette masculinité.
Oui, là, il s'agit de deux livres différents. Il y a un livre qui s'intitule « Des hommes justes » et qui parle de la justice de genre, c'est-à-dire la manière dont on peut réconcilier le masculin et les droits des femmes.
Et le second.
Et le deuxième livre, qui est « Un garçon comme vous et moi », qui est plutôt une autobiographie de genre, c'est-à-dire la manière dont, en tant que garçon, j'ai été construit. Le masculin se produit, s'apprend, s'inculque en quelque sorte. Et moi, j'ai essayé de montrer dans les années 70 et 80 comment, petit garçon, j'avais été transformé en homme à travers des institutions comme la famille, l'école, les clubs de sport et puis aussi la caserne, puisque je suis un des derniers de ma génération à avoir fait son service militaire.
Et qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, selon vous? Est-ce que ça a évolué depuis ce parcours que vous racontez?
Disons que moi, je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit. On est dans une société encore globalement patriarcale. Donc, il y a des injonctions à la virilité ou au modèle de virilité obligatoire. Maintenant, heureusement, beaucoup de choses changent. C'est-à-dire, des hommes assument plus facilement leur paternité, mais dans un autre domaine, ils peuvent aussi reconnaître des zones de doute, des failles, voire des vulnérabilités. Et puis, du point de vue des sexualités, il y a davantage de tolérance, en tout cas dans les grandes villes, il me semble, à l'égard de l'homosexualité ou du fait d'être trans. Alors bien sûr, il y a encore énormément de violence et de discrimination, mais ça, il me semble que ça fait partie quand même des changements qui s'établissent sous nos yeux depuis une vingtaine d'années.
Est-ce que vous avez le sentiment, Christine Castellin-Meunier, vous êtes chercheuse et sociologue au CNRS, que tous ces changements provoquent aussi une crise de la masculinité? J'ai noté cette déclaration de l'écrivaine américaine Nancy Houston, qui dit ceci: on demande l'impossible aux hommes, on leur demande d'être forts et faibles, durs et attentionnés, puissants et sans pitié dans le monde du travail, doux comme des agneaux à la maison. Comment être un homme face à toutes ces demandes contradictoires? C'est ce que j'appelle la virilité vrillée.
Oui, on va vers la complexité des modèles concernant le masculin et le féminin. Mais ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que moi je suis optimiste dans cette sortie balbutiante du patriarcat, des institutions, des rôles, des normes qui définissaient l'homme du côté de la sphère publique, la femme du côté de la sphère privée, qui donnaient des qualités très différenciées aux uns et aux autres. Je suis optimiste, pourquoi ? Parce que, en fait, si on prend l'étymologie de Vénus, ça renvoie à Veneror, vir, vice, force de vie, désir ardent de vivre, vertu, dans le sens de hauteur morale. Et donc, au départ, c'est attribué à Vénus, et viril portait un E. Puis, le E a disparu au profit du masculin, et dans le sens de la conquête, de la destruction, de la guerre, bref. Dans le sens macho.
Alors, vous
et on est en train de sortir.
Ouvrage s'appelle, je le précise, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, les hommes aussi viennent de Vénus, forts et sensibles, les nouveaux visages de la virilité. C'est le titre de votre bouquin.
Et voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut aller vers la conception de la virilité qui finalement renvoie au masculin ou au féminin, dans le sens du désir ardent de vivre, pour les hommes, en allant vers le viril non machiste.
Yvan Jablonka, et puis après Rebecca M. Salem.
Il me semble qu'on ne demande pas aujourd'hui aux hommes ni d'être idéaux, ni d'être sensibles, ni d'être sympas. La grande question, c'est d'être juste. Ça renvoie à un modèle de société qui est la justice de genre. Donc, des hommes justes, c'est encore aujourd'hui une utopie, mais qui peut se caractériser par trois aspects. D'abord, le fait de se remettre en cause, en tant qu'homme, dans son pouvoir masculin. Deuxièmement, le fait de vouloir vivre l'égalité, au sein de la famille, du couple, dans la rue, les transports, l'entreprise, etc. Et enfin, troisièmement, ça se caractérise par le fait de prendre position, d'inventer de nouvelles solidarités à l'égard des femmes, par exemple, ou d'autres types de masculinité.
Est-ce que ça a encore un sens, Rebecca M. Salem? Je vous pose la question un peu provocatrice, parce que vous êtes une entrepreneuse féministe, vous définissez comme telle, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça a encore un sens d'être féministe au regard de ce qui vient d'être dit et de ce nouveau rôle et de cette nouvelle construction aujourd'hui de l'homme 2022, de l'homme moderne?
Malheureusement, oui. Effectivement, le fait d'être féministe, en fait, répond à un besoin, et plus qu'un besoin, à un problème de notre société qui fait que aujourd'hui les institutions sont des institutions qui sont patriarcales. On le voit bien à la suite de ce 43e féminicide qui a eu lieu hier. Ce qui a été dit dans les médias, c'était qu'il n'y avait pas eu de défaillance, de dysfonctionnement de la justice. Le fait même qu'il y ait une femme qui ait été tuée par son ex-compagnon et qu'on puisse affirmer qu'il n'y a pas de problème avec l'institution judiciaire, entraîne le fait de dire que le féminisme a encore malheureusement de beaux jours devant lui.
C'est vrai, je parlais de l'égalité du quotidien quand on voit aujourd'hui l'évolution du modèle familial classique, famille monoparentale, recomposée, des hommes qui, dans certains couples quand même, et c'est à tendance à généraliser, font autant pour les tâches ménagères à la maison que leurs épouses. On a changé d'époque quand même.
Alors, je pense que finalement, tout est lié. Ce qui se passe à l'extérieur du ménage a tendance à se reproduire à l'intérieur du ménage. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait face à une espèce de promesse non tenue, dans le sens où on a éduqué les hommes en leur disant qu'ils avaient le pouvoir dans notre société. Et puis finalement,
toujours,
ils se rendent
vous
compte...
Vous pensez ça? Vous pensez que toujours, toujours aujourd'hui, on éduque les hommes en leur disant que vous aurez le pouvoir?
Je pense que dans quelques cercles, effectivement, on éduque avec une certaine forme d'égalité. Et je pense que malheureusement, du fait de la culture populaire, il est encore inculqué à la majorité des garçons aujourd'hui le fait qu'on vit dans une société où ils auront plus de pouvoir que les garçons.
Vous êtes d'accord avec
garçons.
Ça, Yvonne Blanca, madame?
Dans mon ouvrage « Réinventer l'éducation des garçons », eh bien, moi, il me semble qu'on tend vers l'idée qu'il faut pousser les petites filles vers l'égalité, et c'est très très bien, mais en même temps, il faut aussi pousser les garçons vers l'estime de soi, mais le respect d'autrui. Et que donc la culture égalitaire commence véritablement à faire son chemin du côté des petits
garçons. On peut prendre des exemples tout à fait concrets, par exemple sur le rôle de père. Aujourd'hui, 70% des hommes prennent un congé paternité. Alors, il est évidemment moins long que celui des femmes, mais quand même, c'est un signe de l'époque. Ils étaient 61% seulement en 2003. Et vous dites, Christine Castelin-Meunier, vous dites, on a rompu avec l'héritage patriarcal en ça que on cultive aujourd'hui l'empathie, le care, c'est-à-dire le soin, la communication avec l'enfant. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux quand même dans la relation entre les hommes et les femmes.
Oui. Et dans l'autre livre que j'avais fait chez Larousse sur l'instinct paternel, je montrais que effectivement à l'échelle de l'histoire, on avait éloigné les hommes de cette éducation de présence en présentiel de l'enfant, et que tout se passait un peu à l'extérieur, dans le public, à travers la loi, l'autorité, etc. Et c'était la femme qui était dans le privé. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle norme qui est la paternité relationnelle. Avant, c'était une paternité institutionnelle, définie par des rôles, par des normes et par une différence entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, c'est une paternité relationnelle.
Yvan Jablonka.
Il me semble qu'on est dans une société qui montre des images de femmes dégradées. Par exemple, on voit dans la publicité où les femmes sont souvent renvoyées aux valeurs maternelles, domestiques. Donc il y a toute une culture visuelle qui pousse, par exemple, des jeunes filles à soit sexualiser leur corps, soit être obsédées par la question de la minceur, de l'apparence.
Oui.
Ça renvoie aussi à
des... Mais c'est vrai, pardon, que dans les années 70.
Ah bah, non, certes, c'est beaucoup plus. C'est le cas dans les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant d'expositions.
Les Lolita des années 70, où on sexualisait des petites filles, enfin, il y a eu des scandales avec des personnalités très connues, mais on a quand même changé d'époque aussi, de ce point de vue-là.
Ça peut se passer aussi à travers le cinéma, par exemple, dans beaucoup de films hollywoodiens ou d'ailleurs... les femmes sont renvoyées à un rôle de passivité. En gros, ce sont les hommes qui mènent l'action et puis les femmes attendent qu'on les gagne à la fin comme des trophées. Donc, les modèles, les rôles, la question de l'exemplarité, ça passe par la famille, bien sûr, mais ça passe aussi par d'autres choses qu'on voit moins, comme le cinéma, les livres ou encore la publicité.
Alors, on va revenir, pardon, mais ma question est toujours la même. Quel est l'homme idéal en 2022? Parce que je vois que vous en parlez aussi dans votre livre « Les hommes aussi viennent de Vénus ». On en parle juste après la pause. À tout de suite, 19h40. Des idées suites, on continue de s'intéresser au rapport homme-femme et à la place du patriarcat et de l'éducation aussi des hommes. L'homme idéal, quel est et à quoi ressemble en somme l'homme idéal? Je vais vous poser la question à vous, mes invités qui êtes autour de la table. D'abord, une nouvelle petite pépite de nos archives, parce qu'on en a beaucoup, Europe 1 évidemment, 19h42. Un certain Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre à l'époque, en 70, il disait ceci.
Il ne faut surtout pas confondre égalité et identité. Ce serait d'abord contre nature, et ensuite ce serait stupide, atterrant et désastreux. Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine comme identique à une carrière masculine? Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité.
Ben voilà, c'était en 1970, il y a tout pile 50 ans, donc les choses ont bien changé aussi de ce point de vue-là, et c'est tant mieux, Christine Castelin-Meunier. Je voudrais vous poser la question sur, j'en reviens à ma question essentielle hein, qui m'anime depuis tout à l'heure, c'est quoi l'homme idéal aujourd'hui? Parce que dans votre livre, vous écrivez, il peine en somme à coller aux attentes qui pèsent sur eux, et pour cause, soit trop macho, soit trop dur, soit trop bagarreur, ou alors trop mou. Trop sensibles, pas assez virils, ils sont rarement comme il faut. C'est quoi l'homme idéal aujourd'hui?
Oui, c'est ça. C'est l'homme qui est dans l'estime de soi, le respect d'autrui, qui est viril mais non macho, et qui est tourné vers l'égalité.
Quel est le sens de la virilité aujourd'hui?
Le désir ardent de vivre, du côté des hommes et du côté des femmes. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui, au nom des règlements de compte, des stéréotypes, d'empêcher les hommes d'être virils, mais aussi, il ne s'agit pas d'empêcher les femmes de s'affirmer, et dans le sens aussi de ce désir ardent de vivre.
Vous faites la même définition, Rebecca M'Salem, vous êtes d'accord avec ça? L'homme idéal,
oui,
c'est ça?
Oui, je pense qu'effectivement, l'homme viril
plein
faisait,
de subtilités, c'est compliqué,
faisait
hein.
état, c'est très intéressant. Même le terme viril vient quand même du terme sanskrit, qui voulait dire héros, et effectivement, c'est à ça finalement de se référer les hommes jusqu'à assez récemment, et peut-être encore aujourd'hui, c'est cette espèce de figure de patriotique héroïque qui faisait qu'il devait se montrer extrêmement fort absolument tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, un homme parfait moderne, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui assume le doute dans une société cartésienne, c'est quelqu'un qui dit « je ne sais pas », qui dit « je ne sais pas où est-ce qu'on va aller », mais il faut repenser aujourd'hui les nouvelles masculinités. Je pense que c'est aussi une personne qui contribue à faire en sorte de repenser les structures institutionnelles, une personne qui est capable de remettre sur le tapis son pouvoir pour qu'il soit mieux redistribué. Je pense que, oui, c'est un homme féministe. Ça
va. Ouais. Prendre la boîte à bricolage pour réparer un petit truc à la maison, c'est une forme de virilité ou pas? Non, mais je pose la question, Yvan Jablonka, ou...
Mais disons que c'est une manière de répondre à un rôle traditionnel. Bon, maintenant, la virilité, il y a mille manières d'être un homme, et je crois que c'est très bien ainsi. En tout cas, moi, je suis pour une redistribution du genre, une redistribution des rôles, des responsabilités, et pourquoi pas du pouvoir ou du temps de parole. Et je veux dire par là qu'on peut dire d'une part que les hommes doivent être empathiques, s'intéresser aux autres, prendre soin d'autrui, des enfants, des personnes âgées, etc. Ça, c'est une chose. En quelque sorte, ils peuvent s'approprier des valeurs traditionnellement féminines. Mais à l'inverse, je crois aussi qu'il est fondamental que des valeurs traditionnellement masculines soient assumées par des femmes. Par exemple, je sais pas moi, le courage, la vaillance, la force physique, l'art de faire la guerre. Après tout, pourquoi ça pourrait parfaitement aussi appartenir aux femmes.
On a quelques icônes dans l'histoire, elles sont rares. On pense
elles
à
sont
Jeanne
rares,
d'Arc, évidemment.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît intéressant de montrer que ces valeurs sont réversibles.
Je voudrais dire un mot pour terminer sur la séduction. C'est vrai que MeToo, de ce point de vue-là, a aussi beaucoup bousculé notre rapport à la séduction. Les limites, évidemment, entre la drague et le harcèlement, c'était important. Est-ce que cette question fait aussi partie de la construction des hommes nouveaux, d'une certaine manière?
Bien sûr, parce que moi, ce qui m'intéresse dans les comparaisons entre les comportements de générations d'hommes différentes, eh bien, ce que je trouve très intéressant, c'est que aujourd'hui, l'homme se questionne sur le plaisir, le désir de la femme dans la relation intime. Hein. Mmh. Alors, certes, on dira il y a la pornographie, il y a tout ça, mais justement, l'homme aussi doit faire tout un travail pour se retrouver en relation intime avec la femme, à partir de cette capacité à prendre en considération les attentes de la femme et la communication et la relation.
Alors pour aller à rebours de ça, il y a aussi des gens comme Jean-Pierre Le Goff qui disent le risque c'est que les rapports entre hommes et femmes soient uniquement considérés sous l'angle de la domination et de l'aliénation avec un schéma comportementaliste, c'est-à-dire une innocente victime face à un pur salaud. Évidemment, il y a plein de choses dans la séduction. La virilité en fait partie dans ce rapport à la séduction, parfois.
C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup depuis MeToo, c'est comment est-ce qu'on peut se comporter quand on est entouré de femmes et qu'on est un homme? Est-ce qu'on peut encore prendre un ascenseur si jamais on est le seul homme et s'il y a une seule femme? Et ce qui est intéressant, c'est la notion de consentement. Et c'est ce que MeToo a apporté, c'est qu'on vit dans une société qui respecte davantage le consentement des femmes. Et ce qu'il faut surtout souligner dans ces cas-là, c'est que les femmes ont peur depuis des décennies, des siècles finalement, quand elles sont entourées d'hommes. Et ça me fait penser à un petit schéma du New Yorker que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui dit que quand un homme est dans une salle où il n'y a que des femmes, il va se sentir extrêmement bien. Alors que quand une femme est dans une pièce avec que des hommes, elle va avoir peur. Et finalement, on travaille aujourd'hui pour une société où les femmes n'auront pas peur. Et si ça implique que les hommes se remettent en question, eh bien soit.
Un dernier mot sur cette question, Yvan Jablonka.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et c'est ce que j'ai essayé de définir sous le terme de masculinité, de respect. Respect du consentement de l'autre comme un absolu, et puis aussi le fait de tenir compte des effets de contexte. On ne s'adresse pas, on n'est pas nécessairement dans une situation de drague quand on est chez le boucher, dans la rue ou dans une soirée. Et il y a des effets de contexte qui rendent certaines situations de drague insupportables. Et ça fait aussi partie de cette nouvelle masculinité qu'on appelle toutes et tous, je crois, de nos voeux.
Bien, merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat et à cette discussion. Qu'est-ce qu'être un homme en 2022 ? On a apporté des clés de compréhension et de solutions, je l'espère, à nos auditeurs et à nos auditrices.
Europe 1, Julien Bugier.
19h48, restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir. Alors, on va revenir aujourd'hui en 1977, année de la première sortie du premier volet de la saga Star Wars. A tout de suite. La suite du Club des Idées, 19h52, avec les archives, le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Bonsoir Clément Le Saffre.
Bonsoir.
Alors ce soir, direction 1977. Le 25 mai de cette année-là, sortait en France un film qui allait tout changer. Quel film ? La guerre des étoiles, Star Wars.
Voilà, alors là, normalement, vous voyez tous le texte qui défile, la musique, hein, c'est l'intro la plus célèbre de l'histoire du cinéma, Star Wars. C'est un bouleversement quand même, car à l'époque, le concept de blockbuster, ces films à grand spectacle, n'existe pas vraiment. Rien ne préparait les spectateurs à ce qu'ils allaient voir le 25 mai 1977, quand les lumières des salles de cinéma se sont éteintes. Alors de but en blanc, il est question d'une guerre entre l'Empire Galactique et les rebelles, de l'étoile de la mort, de la princesse Leia et d'un certain Dark Vador.
Oui.
En une minute, George Lucas, le cerveau de Star Wars, installe un univers entier au croisement de la tragédie grecque et du soap opéra. Les deux heures qui suivent révolutionnent le 7e art grâce à des effets spéciaux plus vrais que nature, à la fois mécaniques et numériques, sans parler des effets sonores, bien sûr, hein, qu'on se souvient tous, à commencer par le bruit des sabres laser. Inimitable, on l'a tous fait avec nos mains.
On va en avoir un surtout.
Exactement.
On a tous rêvé d'en
Peut-être
un.
Qu'un jour on en aura un. Et si on ajoute à ça les bip bip du droïde R2D2, les personnages terriblement attachants, les stormtroopers très maladroits et la musique magnifique de John Williams, et bien voilà, la guerre des étoiles devient instantanément culte.
Et pourtant, même George Lucas n'y croit pas au début.
Non, car le tournage et la production sont chaotiques. George Lucas est même hospitalisé pour de l'hypertension. Alors quand Star Wars sort, le cinéaste s'exile à Hawaï. Il craint un échec cuisant qui marquerait la fin de sa jeune carrière.
J'arrive pas à y croire.
Voilà pourquoi tu es.
Sauf que il est sauvé, le public s'emballe, les salles sont pleines à craquer dès le premier jour. En tout, le film rapporte 260 millions de dollars, 26 fois son budget. George Lucas et la Fox se frottent les mains, ils mettent en chantier de suite, le tout avec une recette d'une simplicité enfantine, comme l'expliquait George Lucas himself au micro de Bruno Kras sur Europe 1 en 1999.
Dans les années 30, il y avait ce qu'on appelait le Saturday Matinee Series, c'est-à-dire c'était une série de films comme ça qui avaient toujours la même structure et qui passaient avant le film de l'après-midi. Et en fait, la série a été conçue dans cet esprit-là. Et c'est pour ça que donc on retrouve toujours la même structure dans chacun des épisodes.
Voilà, des histoires simples. C'est le secret de Star Wars 1, la plus grande saga de l'histoire du cinéma, celle qui a biberonné des générations entières de Padawan comme moi. La seule qui fait se lever les fans en pleine nuit pour assister à des séances en avant-première. Europe 1 était à Lyon en 1999 pour la sortie de l'épisode 1, La menace fantôme.
Devant le cinéma pâté, ils sont une centaine à faire la queue pour la dernière séance de cette nuit étoilée. Certains n'ont pas dormi pour être à l'heure, comme ses étudiants.
On a fait un premier aller-retour pour voir qu'il y avait une séance à 5h30, un deuxième aller-retour pour trouver des sous et venir acheter les places. Et là, c'est la moitié du troisième aller-retour.
Et après le retour, c'est dodo ?
Je sais pas, on a cours quand même.
Un succès fou, qui ne sait ?
À croire qu'en 77, vous étiez né, Clément.
Pas pour celui-là, mais alors pour les derniers, ceux qui viennent de sortir. Effectivement, il est possible que j'ai peu dormi le jour où le 7 est sorti. Et ce succès fou, finalement, il a traversé les générations et les décennies, hein, malgré une qualité inégale, il faut le dire aussi. Les 9 films répartis sur 5 décennies donc ont rapporté 10 milliards de dollars cumulés au box-office.
Ouais, mais pas mal quand même, tous ces films. Car Star Wars, c'est vrai que c'est aussi un gros business.
Oui, vrai, vous dites, Maître Bugier, la vraie révolution de Star Wars, c'est d'avoir été le premier film à sortir de l'écran pour devenir un produit commercial, comme le constatait toujours en 1999 le correspondant d'Europe 1 à Washington, Fabrice Papillon.
Depuis
trois jours, des milliers de fans envahissent les magasins de jouets pour acheter les tout nouveaux jeux vidéo Star Wars, les épées laser, lunettes à vision nocturne, vaisseaux en plastique et autres yo-yo. Pour l'un des vendeurs du plus grand magasin de jouets de Washington, c'est un vrai raz-de-marée. Tout le monde se bouscule pour acheter les nouveaux gadgets. On se croirait à Noël. Tout le monde doit avoir son souvenir Star Wars.
Et grâce à tous ces produits dérivés vendus en masse dans les grands magasins, en 44 ans, la saga Star Wars a rapporté plus de 40 milliards de dollars.
40 au revoir, milliards
ami.
De dollars.
Que la force soit avec toi.
La force est avec George Lucas. 40 milliards, c'est monstrueux.
Juste pour les produits
Juste
dérivés.
Pour les produits dérivés.
40 milliards. C'est incroyable ce que vous nous apprenez. 40 milliards. J'en reviens pas, ça va me faire la soirée. Merci Clément Le Sage pour ce récit. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans un instant, Julien Pierce, le rappel de l'info et musique est avec toi, maître. Non, j'y arrive pas bien. Clément le fait beaucoup.
Mais
ah, vas-y,
oui.
Clément.
La force est avec toi, Émilie.
Oui, merci, maître Yoda, enfin, maître Clément et maître Julien. Ce soir, je vous présente Alice et moi, qui sort son premier album et qui a un projet de vie très intéressant. Écoutez.
Je veux sortir avec un rappeur.
Bon, il paraît qu'il faut prendre un ticket en ce moment, mais tout de même, Drama, premier album d'Alice et moi, on en parle ce soir sur Europe 1, car elle est notre invitée.
Bon, on sera là, merci Émilie, à demain, 18h, merci infiniment de votre fidélité. Julien Pierce, je suis troublé par, par la chronique Star Wars, Julien Pierce pour le rappel de l'info dans quelques secondes, à demain 18h.